Comment la justice a-t-elle été pensée après le génocide des Tutsis en 1994? Il y a 5 ans, nous vous avions proposé 2 reportages consacrés à cette justice internationale mise en place fin 1994. Il s'agit du Tribunal pénal international pour le Rwanda. Comment et dans quel contexte ce tribunal a-t-il été créé par les Nations Unies? C'est le premier volet que je vous propose de découvrir ou de redécouvrir. C'est un volet réalisé par Marie Firenze et Ornella Rovetta, chercheuses à l'ULB, en particulier sur ces questions relatives au génocide et à la justice internationale. Elles se sont rendues à la fois au Rwanda et en Tanzanie, où le tribunal a travaillé, à Arusha, pendant près de 20 ans. Voici donc ce premier volet réalisé avec Jean-Marc Vierset, Les Nations Unies face au génocide. C'est un reportage réalisé donc en 2019.
La chanson nous parlait de trois images qui représentent l'image des rescapés. Ça nous parlait d'une maman qui avait beaucoup d'enfants avant le génocide. Et puis après le génocide, elle est restée toute seule. Elle parle d'une autre maman qui s'est fait violer devant son fils. Et les enfants qu'il a violés avaient le même âge que son fils. Et d'un autre enfant qui venait d'une famille aisée, qui vivait une vie normale, mais après le génocide, qui restait tout seul, qui était devenu maboule, si je dirais. Et puis, elle nous raconte l'histoire, et puis après, elle revient, elle dit, est-ce qu'on peut parler de réconciliation après tout ça? Et puis, elle se répond elle-même en disant, je ne suis pas contre la réconciliation, mais je donne ce devoir-là à la justice.
Est-ce que vraiment il y a une justice? Et s'il y a une justice, quel serait ce genre de justice? Quel est le concept de cette justice? Elle marche comment? Est-ce que c'est une justice qui va vraiment réparer?
En 1994, un génocide est perpétré contre les Tutsis au Rwanda. Ce génocide a été jugé par un tribunal international, le Tribunal pénal international pour le Rwanda, le TPIR.
Pour la première fois dans l'histoire, un tribunal condamne les personnes pour crimes de génocide.
Ce mot, génocide, avait été défini un demi-siècle plus tôt dans une convention adoptée par les Nations Unies au lendemain de la Shoah. L'adoption de cette convention en 1948 est fondamentale. Il y a désormais une définition juridique internationale qui oblige tous les États à prévenir et à punir le génocide, c'est-à-dire des actes criminels commis dans l'intention de détruire un groupe en tant que tel.
Le TPIR a fermé ses portes en 2015. C'est l'histoire de cette justice que l'on va vous raconter. Pour la comprendre, pour comprendre comment elle a été pensée, comment elle a été réalisée et pour comprendre ce qu'il en restera demain, nous avons retrouvé des archives sonores. Nous nous sommes rendus au Rwanda, en Tanzanie, à Paris et à Bruxelles. De nombreuses personnes nous ont dit comment elles avaient participé à la mise en œuvre de cette justice. Elles nous ont raconté le chemin parcouru et celui qu'il reste encore à tracer.
Premier chef d'accusation, Monsieur Jean Kabanda. Il vous est reproché, en raison des actes ou des émissions décrits au paragraphe 312 à 315, 317 à 319 de l'acte d'accusation qui vous a été lu, d'être responsable de meurtre et d'atteinte grave à l'intégrité physique ou mentale de membres de la population Tutsi dans l'intention de détruire en tout ou en partie, un groupe ethnique ou racial comme tel, et d'avoir de ce fait commis le crime de génocide. Sur ce premier chef d'accusation, M. Jean Kabanda, Plaidez-vous coupable ou non coupable?
Je plaide coupable.
Deuxième chef d'accusation.
Un moment important devant le tribunal international pour le Rwanda, à Arusha, en Tanzanie. L'ancien Premier ministre Jean Kambanda était entendu pour la première fois. Il plaide coupable sur tous les chefs d'accusation, à savoir génocide et incitation génocide. À Kigali, cet aveu de culpabilité est considéré comme un geste important. Le directeur de cabinet du ministère de la Justice a rappelé que pendant un certain temps, beaucoup de gens ont nié qu'il y avait eu génocide.
Jean Kambanda plaide donc coupable de génocide devant le tribunal pénal international pour le Rwanda. En 1994, il était à la tête du gouvernement intérimaire mis en place dès le début du génocide.
Dans la nuit du 6 au 7 avril, le pouvoir politique et militaire met en œuvre le massacre des Tutsis et assassine les opposants politiques. Les Tutsis sont alors un des trois groupes dits ethniques qui composent le Rwanda. Cette classification ethnique est un héritage de l'époque coloniale. En 1962, à l'indépendance, le nouveau pouvoir rwandais s'est appuyé sur cette vision coloniale pour forger un discours selon lequel les Tutsis seraient des envahisseurs dont il faudrait se débarrasser. Ce discours engendre des violences qui, elles-mêmes, poussent des dizaines de milliers de familles Tutsis à l'exil. Les violences restent impunies. Dans les années 1980, le Front patriotique rwandais est créé. Le FPR réclame, notamment, le retour des réfugiés Tutsis au Rwanda. Une guerre civile s'engage en 1990, à laquelle les accords de paix d'Arusha mettent fin, 3 ans plus tard. Une mission de maintien de la paix de l'ONU est prévue dans le cadre de ces accords. C'est l'instauration de la MINUAR. En 1994, des casques bleus sont donc présents au Rwanda, mais ils ne parviennent pas à empêcher le génocide.
Gassana Ndoba a dû fuir le Rwanda avec sa famille dès l'indépendance en 1962. Au début des années 1990, il fonde un comité en faveur des droits de l'homme. Depuis des années, et comme beaucoup d'autres, il tente d'alerter la communauté internationale. Il sait qu'un génocide est possible.
En avril 1994, quand le génocide a commencé, nous avions fait tout ce que nous pouvions pour alerter les autorités compétentes au niveau international et au niveau belge, des dangers et des menaces extrêmes qui pesaient sur le Rwanda. Quand le génocide a commencé, nous n'avons pas été surpris. Nous avons peut-être été surpris par l'ampleur, mais pas du tout par la survenance d'un génocide. Parce que tout était en place, dès 1993.
La situation est absolument dramatique et tragique. Il y a deux choses. Il y a d'abord, évidemment, les combats qui continuent, les affrontements entre l'armée rwandaise et le FPR, les rebelles qui tentent de marcher sur la ville, que nous entendons ici au loin. Et puis il y a le cortège de massacres, de pillages, d'exactions auxquels nous avons assisté tout à l'heure. J'ai eu moi-même l'occasion d'aller soit à l'hôpital central, où j'ai constaté qu'il y avait des montagnes de cadavres de gens. La morgue est tellement pleine qu'on ne peut plus mettre des cadavres dans cette morgue et qu'il faut les empiler à l'entrée de la cour. La panique est telle que des gens sont enterrés vivants. Et puis la chasse aux Tutsis, donc l'ethnie minoritaire du Rwanda, est telle que les gens absolument paniqués sont massacrés dans les églises. Ce matin, nous avons pu entrer dans une église et nous avons constaté qu'il y avait là 70 cadavres, torturés d'une manière abominable, massacrés à coups de machette, de couteau, de tournevis. Et on a l'impression ici que ces pillages et ces horreurs ne s'arrêteront que quand les derniers Tutsis et les derniers membres de partis d'opposition seront totalement éliminés. Pour vous donner une certaine idée de l'ampleur de ces massacres, tout à l'heure, dans un hôpital de Kigali, ce matin, l'armée est entrée, quelques militaires sont rentrés, ont battu à coups de fusil les blessés qui gisaient sur les brancards, et pire, ils ont pris certains des blessés qui se trouvaient sur les blocs opératoires, les ont traînés hors de l'hôpital et les ont exécutés.
Le génocide est en cours. Les Nations Unies ont décidé de rappeler la quasi-totalité des casques bleus.
Gassana Ndoba continue son combat.
Qu'est-ce qu'il nous restait à faire? Eh bien, continuer malgré tout à tenter de faire pression sur le secrétariat général des Nations Unies, sur le Conseil de sécurité lui-même, auquel nous avons écrit à plusieurs reprises. Début mai 1994, nous avons reçu une première réponse du secrétariat général des Nations Unies. Mais la réaction a consisté à dire, écoutez, tout ce que vous dites, nous le savons, mais ne vous inquiétez pas, nous faisons le nécessaire à notre niveau. Nous essayons d'obtenir un cessez-le-feu et si le cessez-le-feu est obtenu, les choses vont s'arranger. C'était évidemment la pire piste ou la moins efficace de toutes les pistes possibles, puisque le génocide n'avait pas lieu parce qu'il y avait la guerre, le génocide avait lieu parce qu'il était prévu et préparé et qu'il était voulu par le pouvoir en place. Qu'est-ce qui restait ? Continuer, malgré tout. Et nous avons continué en allant à la Commission des droits de l'homme de l'ONU à Genève en mai pour porter notre témoignage. Il ne s'agissait plus d'alerter, tout était connu, nous avons témoigné à cette commission des droits de l'homme, où nous avons notamment réclamé la mise en place d'un tribunal pénal international.
Pour la troisième fois de son histoire, la commission des droits de l'homme de l'ONU est réunie en session spéciale depuis 11h ce matin, session exclusivement consacrée à la situation au Rwanda. Chacun se souvient que le 21 avril dernier, les forces des Nations Unies pliaient bagages, réduisant le personnel de 2500 personnes à 270, abandonnant les employés locaux Tutsis à un massacre annoncé. C'est donc dans un climat de honte et de culpabilité largement partagé que s'est ouverte cette session spéciale qui peut-être influencera les alternoiements du Conseil de sécurité.
Fin mai 1994, la session spéciale de la Commission des droits de l'homme de l'ONU est une étape importante. Les diplomates, mais aussi les organisations des droits de l'homme, y prennent la parole.
Ces militants insistent sur la responsabilité de la communauté internationale. Éric Gillet, avocat belge et militant des droits de l'homme, témoigne lors de cette session. Il se souvient de son importance.
C'est une réunion très importante, évidemment, parce qu'elle a lieu en plein génocide. Et qu'il y a encore un espoir de l'arrêter. Et entre-temps, le génocide s'est étendu à tout le pays, ce qui n'était pas le cas au départ. Hein. Le 19 avril, il s'étend à Boutaré, par exemple. Donc cette commission a abouti à désigner René Denis-Segui comme représentant spécial des Nations Unies au Rwanda, qui y est allé, qui a fait un rapport. C'est ce rapport qui a donné lieu, en réalité, à la résolution qu'a créée le TPIR ensuite. C'était encore un moment où, il ne faut pas l'oublier, et les États-Unis et la France et même la Belgique faisaient semblant de se demander ce qui se passait. C'est-à-dire qu'on ne prononçait pas le mot génocide ni acte de génocide, c'était l'administration américaine avait interdit à ses fonctionnaires de prononcer le mot parce que ça engageait la responsabilité des États que de reconnaître que c'était un génocide qui était en cours. Voilà.
Principal enjeu, la Commission demandera-t-elle au Conseil de sécurité l'installation d'un tribunal pénal international ad hoc afin de juger les atrocités commises au Rwanda depuis plus de 6 semaines. Même si le Conseil de sécurité montre peu d'empressement à voir pleinement fonctionner le tribunal chargé de l'ex-Yougoslavie, la dénonciation et le jugement de leurs auteurs demeurent aujourd'hui la seule vraie réponse aux violations des droits de l'homme.
Après la prise de Kigali le 4 juillet, le FPR met fin au génocide des Tutsis. En 3 mois, entre 800 000 et plus d'un million de personnes ont été tuées. Le pays est dévasté. Les autorités politiques et militaires sont en fuite. De très nombreux Rwandais ont pris part au massacre. Les survivants, eux, doivent vivre dans ce contexte.
Certains tentent de s'organiser. Valérie Mukabaire est la représentante d'AVEGA, l'association des veuves du génocide.
C'est une association qui a été créée par les veuves, une cinquantaine de veuves qui voyaient la situation catastrophique dans laquelle tous les Rwandais vivaient, et aussi principalement les veuves qui venaient de perdre les enfants, leur mari, la famille, les biens, et qui étaient dans une détresse vraiment énorme. Et quelques femmes, quelques veuves du génocide qui vivaient à Kigali se sont dit il ne faut pas rester dans la détresse, il ne faut pas, on est rescapé, on reste avec beaucoup de responsabilités, même si on est dans le chagrin, même si on est pour certaines étaient traumatisés, on doit chercher une force pour combattre les conséquences du génocide, pour lutter contre ces conséquences et pour voir comment reconstruire la famille, comment se reconstruire, comment arriver à faire quelque chose pour survivre. C'est ça. Les veuves avaient besoin aussi d'une justice, de la justice après le génocide. Il y avait des génocidaires qui devaient répondre à ce qu'ils ont fait et les veuves devaient avoir la justice dans ce sens-là.
Marcel Kabanda est historien et président d'Ibuka France, la plus grande association de rescapés du génocide.
Le Rwanda n'a plus la possibilité de juger qui que ce soit, parce que tout a été détruit. Donc, comment faire ? Donc, c'est quand même important de mettre en place quelque chose qui va indiquer un chemin à prendre après. Pour moi, c'est ça le rôle du tribunal. C'est au moins ramener, sortir du chaos, redire un peu le droit et puis tracer un chemin.
À l'ONU, le Conseil de sécurité réclame la création rapide d'un tribunal international sur le Rwanda.
Le Conseil a fondé son avis sur le rapport rédigé
les
par
les responsables
trois
des massacres au Rwanda ne devraient pas rester impunis. Le Conseil de sécurité des Nations Unies.
À l'étranger, toujours le Rwanda. Cette fois, il est en place un tribunal international qui devrait juger du génocide.
Le Conseil de sécurité de l'ONU a décidé cette nuit la mise en place de ce tribunal. Le siège du tribunal est encore à fixer. En tout, il y aura 11 juges qui pourront juger les crimes commis au Rwanda, le génocide, mais aussi les massacres et les graves violations du droit humain.
C'est un grand moment, bien sûr. Le moment où l'ONU s'occupe de poursuivre les auteurs du génocide, c'est un grand moment. Parce que juger, ce n'est pas uniquement à condamner. C'est aussi pouvoir faire un récit, mettre les mots sur ce qui s'est passé, de façon à pouvoir faire l'histoire de ce génocide. Sinon, ça aurait été un conflit ethnique, un énième conflit ethnique. Des massacres entre Africains, ça leur arrive assez souvent. Donc, c'était important de donner le nom à ça et le tribunal était le lieu privilégié pour le faire.
Le cadre est désormais défini. La justice peut commencer son travail.
Gassana Ndoba se bat depuis longtemps contre l'impunité. Il acte la création de ce tribunal international.
Je n'appellerai pas ça une victoire, c'est un résultat. Le mal était fait, le drame, la tragédie était consommée, mais on avait un outil qui pouvait contribuer à la reconstruction du pays à travers l'exercice de la justice à un certain niveau. Nous ne nous faisions pas beaucoup d'illusions. Nous savions que de la communauté internationale, nous ne devions plus attendre de résultats significatifs ou de mesures adéquates. Mais enfin, il n'y a rien qui remplace, il n'y a pas d'alternative à la communauté internationale, c'est ça le problème.
L'ONU décide finalement d'établir le TPIR à la fin de l'année 1994. Concrètement, un tribunal international est créé spécifiquement pour juger les crimes commis au Rwanda et dans les États voisins. Son siège sera établi à Arusha, en Tanzanie. La Tanzanie a en effet proposé d'accueillir la Cour sur son territoire. Et la ville d'Arusha constitue, aux yeux du Conseil de sécurité, un lieu à la fois proche du Rwanda et un espace impartial. Le mandat du TPIR est également spécifique, comme l'explique l'actuel responsable des affaires juridiques au bureau du procureur à Arusha, Tembile Segoete.
Le Conseil de sécurité a créé le TPIR par sa résolution 955 de novembre 1994. Quand il a créé le tribunal, il a aussi établi son cadre de fonctionnement. Il devait poursuivre les personnes responsables de crimes internationaux. D'un point de vue géographique, il était compétent pour les crimes commis au Rwanda et dans les États voisins. Enfin, d'un point de vue temporel, il était limité aux crimes commis entre le 1er janvier et le 31 décembre 1994. Ce sont donc les plus hauts dirigeants qui ont porté la plus grande responsabilité dans le génocide qui était visé. Mais au début, les enquêteurs sont allés sur le terrain, ont cherché de l'information et ont obtenu des renseignements sur toutes les catégories de personnes qui auraient été responsables du génocide. Et c'était un point de départ pour établir les actes d'accusation. Mais comme vous le savez, le TPIR a aussi été pensé comme un tribunal ad hoc, spécifique. Il n'était pas censé durer éternellement. Nous devions trouver un moyen de rationaliser les affaires portées devant le TPIR afin de pouvoir mener notre mandat à son terme.
Le TPIR est créé un an après le Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie. Les deux tribunaux ont fonctionné pendant 20 ans. Serge Bramertz, le procureur général du mécanisme, qui a pris le relais de ces tribunaux.
Le mandat a toujours été de poursuivre ceux qui sont les plus hauts responsables, que ce soit au niveau politique qu'au niveau militaire, comme on le dit, les gros poissons. C'est d'ailleurs toutes les juridictions internationales en ce mandat. Nous savons qu'une juridiction internationale peut uniquement poursuivre un nombre limité de personnes. C'est un peu plus de 90 au niveau du tribunal pour le Rwanda, c'est plus de 160 au niveau de l'ex-Yougoslavie. C'est beaucoup si on compare avec d'autres juridictions internationales, mais c'est très peu si on compte le nombre de personnes qui ont été impliquées dans les crimes.
Le TPIR se met donc en place, mais les doutes ne sont pas dissipés. Éric Gillet.
Alors, au moment où le tribunal s'est créé, on n'avait pas beaucoup d'espoir. Et il s'est mis lentement en marche. On a rencontré le procureur à l'époque, le premier procureur du TPIR. Et puis, un peu contre toute attente, il y a des États africains qui se sont mis à arrêter des gens, qui s'étaient réfugiés chez eux. Des gens qui y avaient trouvé refuge et qui s'y croyaient sans doute bien à l'abri. Et puis ces États se sont mis à arrêter des gens importants, les gens qui se situaient au top de la hiérarchie du génocide. Et donc ça a pu vraiment démarrer à partir de là.
10 Rwandais accusés de génocide ont été arrêtés à Nairobi, la capitale du Kenya. Ces arrestations ont été confirmées par le tribunal pénal international pour le Rwanda qui siège à Arusha en Tanzanie. Et parmi ces 10
Entre-temps,
Rwandais arrêtés,
un premier procès a débuté devant le TPIR. C'est le procès de l'ancien bourgmestre de la commune de Taba. Il a été arrêté en Zambie. 41 témoins ont été entendus, des Rwandais pour la plupart. Le procès de Jean-Paul Akayesu prend fin en septembre 1998. C'est la première fois qu'un tribunal international juge un homme pour génocide.
L'audience est ouverte. La chambre de première instance, 1, est en session ce jour, 2 septembre 1998, pour rendre son jugement dans l'affaire Le procureur contre Jean-Paul Akayesu, affaire numéro ICTR, 96-4-T.
Jean-Paul Akayesu est reconnu coupable de génocide, d'incitation directe et publique à commettre le génocide et de crimes contre l'humanité.
Ce procès fait aussi jurisprudence. C'est la première fois que le viol des femmes Tutsi est reconnu comme un acte constitutif du crime de génocide. Ce jugement, c'est aussi, enfin, la reconnaissance juridique du génocide. Marcel Kabanda.
Lorsque le tribunal commence le premier jugement à Akayesu, le bourgmestre de Taba, qui est jugé en 1998 pour crime de génocide pour la première fois depuis 1948, c'est quand même immense comme jugement. Le génocide de Tutsi est un fait de notoriété publique. C'était important que ce soit dit dans un tribunal, par un juge.
La Chambre remarque de très nombreux faits. Atteste que le dessein des auteurs de ces tueries était de faire disparaître à jamais le groupe Tutsi. En conclusion, pour le premier chef d'accusation relatif au génocide, la Chambre est convaincue, au-delà de tout doute raisonnable, que la responsabilité pénale individuelle d'Akayesu est bien engagée au titre de l'article 6, paragraphe 1 du statut. Il en est ainsi décidé. Et l'audience est levée.
Un mois plus tard, Jean-Paul Akayesu est condamné à la prison à vie.
Les Nations Unies face au génocide, premier volet d'un reportage réalisé par Marie Firenz, Ornella Rovetta et Jean-Marc Viercet, avec le soutien de la communauté française, de l'ULB et avec des archives du mécanisme pour les tribunaux pénaux internationaux. Les archives aussi de la Sonuma et de la Radio-Télévision Suisse, avec également le soutien d'Assumpta Mugiraneza et la collaboration d'Innocent Kamanzi.
Retrouvez tous les podcasts de la RTBF, dont de nombreux inédits, sur RTBF Ovio.